Alors, on est sur Divergence FM. Alors, la vie d'artiste, c'est normal, hein, puisque c'est une référence à Léo Ferré, me semble-t-il.
Tout à fait, oui.
me semble-t-il. Donc, je suis avec Jean-François Rigaudin. Je suis ravi d'abord de l'avoir dans les studios.
Ravi d'être à Divergence aussi, Olivier.
Alors, donc, on revient à hors cadre et puis on revient maintenant à votre travail de sculpteur. On a compris que vous travaillez à quatre mains, mais vous faites pas que des totems colorés.
Non, absolument pas. C'est-à-dire que j'ai une obsession depuis 10 ans, d'ailleurs 10, 12 ans, d'ailleurs certaines personnes, pas me le reprochent, mais se posent des questions en fait. Pourquoi toujours fais-tu des visages? Pourquoi, tires-tu toujours le même fil de la pelote? Eh bien parce que je pense, après avoir fait une résidence artistique en 2011 sur l'île de Pâques, on est plusieurs milliards d'individus sur Terre, que sur Terre, très peu de gens se ressemblent, éventuellement les jumeaux, les jumelles,
et encore,
peuvent se ressembler, mais il y a autant de formes de visage qu'il y a d'êtres humains. Et moi, je défends l'idée qu'en sculptant en taille directe chacune de ces œuvres, de ces têtes, je fais des têtes qui sont différentes. Alors certes, si on les regarde vite, on peut se dire « mais c'est souvent le même type ». Oui, mais c'est un travail de réinterprétation.
Bah, c'est comme l'île de Pâques.
Des Moai, c'est ça, pas, exactement.
L'île de Pâques, c'est pas du tout, on s'imagine que ce sont des répliques. Mais
pas du tout, pas du tout. Hein. Sur l'île de Pâques, pour y être allé, je peux juste dire... En fait, chaque statue qu'on en appelle Moai sur l'île de Pâques, ce sont en fait des statues qui représentaient les personnes importantes qui avaient disparu, des villages devant lesquels ces statues étaient érigées sur des haous. Les haous, ce sont des terrasses. Donc, effectivement, chaque individu étant différent, chaque statue et chaque interprétation étaient différentes.
Ce ne sont pas comme des monuments funéraires, mais c'est pour rendre hommage à la personne disparue.
Exactement, tout à fait. Oui.
Alors, donc, vous êtes inspiré, on a compris, de ce genre de choses, mais comme on disait tout à l'heure, on est tous la résultante de milliards d'êtres humains.
Moi, je pense que les seules personnes qui se sont inspirées de peu de gens, ce sont les gens qui ont peint à Lascaux, par exemple.
Oui,
dans ces grottes-là. Voilà, les tout premiers. Sinon, on est forcément inspiré, guidé par quelque chose. Moi, c'est les statues Moai de l'île de Pâques, avec, et je tiens à le dire, parce que c'est très important aussi, Olivier, avec une écriture de sculpture qui est particulière, c'est-à-dire que je les rends plus contemporaines, je les réinterprète et je m'inspire par exemple de ce qu'avait fait Modigliani à travers ses visages très allongés, avec ses nez très allongés. Voilà,
c'est sculpture fantastique, absolument.
Fantastique aussi, peinture et sculpture.
Voilà. Alors écoutez, on est donc dans cet univers avec vous de sculpteur, accompagné par un peintre, on peut dire.
Il est peintre, bien sûr. Tout à fait.
Voilà, et vous travaillez ensemble. Moi, c'est quelque chose qui me fascine, parce qu'on dit toujours que les artistes sont très solitaires, et là, vous êtes solidaire.
Oui, alors, c'est vrai que mon boulot, ça a été de travailler avec les artistes du spectacle vivant. Dans le spectacle vivant, les gens, c'est normal, un musicien a besoin de travailler avec un autre musicien, un danseur avec un autre danseur, un comédien avec d'autres comédiens pour faire des mises en scène, à moins que ça soit des spectacles solo.
Il faut la mise en scène, il faut les autour, il faut du monde.
Par contre, dans les arts plastiques, beaucoup plus compliqué parce qu'un artiste met tout dans la création qu'il fait. Voilà. Que ça soit un sculpteur, que ça soit un peintre, voire un photographe. Et rares sont en fait les artistes qui ont envie de laisser une part d'eux-mêmes à l'interprétation d'un autre artiste.
On comprend.
Et c'est ce qui fait qu'on a une démarche, je ne dirais pas qu'elle est exceptionnelle, elle ne se passe pas.
Non.
Mais elle n'est pas si commune que ça dans le spectacle, dans l'art plastique, en tout cas.
Dans l'art plastique, c'est vrai. Alors, il y a quelques... On peut penser, remarquez, à Montpellier, on est bien placé. Regardez, dans l'urban art, il y a des gens maintenant qui se réunissent.
Exactement,
Par exemple, je prends un exemple, qui au début, c'était chacun dans leur coin à faire leur petit dessin, leur petit graffiti. Et puis maintenant, de plus en plus ça va, ils travaillent ensemble.
Mais je pense que c'est quand même une tendance aujourd'hui. Mmh. Les gens ont besoin de se retrouver. C'est peut-être différent de cette société qu'on dit très nombriliste. Je crois que les artistes ont besoin de se retrouver. Je voudrais préciser,
allez-y.
Olivier, ça me paraît important, si on a appelé cette exposition hors cadre, C'est pour une simple et bonne raison. Connaissant le travail de Jean-Paul depuis très très longtemps, travaillant avec lui et faisant des œuvres à quatre mains depuis 2012, dans son atelier, Jean-Paul a des peintures sur des cadres. On en a un d'ailleurs de lui pour l'anniversaire de Divergence qu'il nous avait fait il y a fort longtemps.
Oui, pour les 20 ans.
Pour les 20 ans, oui. Mais il a également... un goût particulier pour peindre en 3D sur des œuvres qu'il récupère au marché aux puces, éventuellement dans la rue, etc. Donc, je l'ai poussé. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup le pousser, mais peu de personnes lui avaient proposé ça. Je lui ai dit, Jean-Paul, ce que je propose, c'est que dans cette exposition, si tu veux bien, on va l'appeler hors cadre.
Oui, hors cadre.
On va exposer tes tableaux, on va exposer mes sculptures, on va exposer nos sculptures, et on va aussi exposer tout ton travail hors cadre, c'est-à-dire tout ce que tu as récupéré de droite et de gauche, que tu as, on dit ça aujourd'hui, customisé, avec tes couleurs, avec, je veux dire...
Avec son talent.
Il a récupéré Jeanne d'Arc, une statue de Jeanne d'Arc, sous laquelle il a mis deux petits cochons qui regardent sous sa robe. Voilà. Évidemment, si là, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, original, un peu...
Décalé, un peu coquin.
Ouais. Voilà.
Et puis, il y a Pierre et Leloup aussi, je crois.
Il y a aussi Pierre et Leloup, bien sûr.
Alors, vous voyez...
Il y a Icare, voilà.
Alors, les auditeurs de Divergence FM, j'espère que vous avez bien écouté, que vous avez envie. Vous avez envie d'y aller, là.
Voilà. Alors, c'est facile pour y aller.
Alors, expliquez-en.
Voilà. Quand on part de Montpellier, on va direction, on prend la voie qui va à Sète, on prend direction Vic-la-Gardiole.
Vic-la-Gardiole.
Tout le monde connaît l'adorable petit bois.
Oui, le petit bois.
De Vic-la-Gardiole qui précède le pont qui enjambe le canal.
Oui, il y a un camping. Voilà. Il y a des chevaux.
Eh bien, voilà, Olivier, avant le petit ranch avec les chevaux.
Oui, c'est ça.
À droite, il y a une petite route qui part à droite. Là, c'est à peu près à 500 mètres.
500 mètres.
Et là, le mas qui est magnifique, on ne peut pas le rater. En plus, ça sera bien indiqué.
Ça sera très bien indiqué.
Donc, c'est facile pour y aller.
Et puis, vous êtes juste à côté de la Méditerranée.
Voilà. Et si vous passez, par exemple, le samedi, alors vous pouvez venir évidemment au vernissage, mais si vous passez le samedi, c'est ouvert toute la journée, vous pourrez aller vous balader dans les salines qu'il y a tout autour, dans le petit bois, etc. Venez avec des enfants, hein, parce que l'univers... Bon, là, j'ai parlé d'un univers un peu coquin, mais il n'y a pas que ça.
Mais les enfants, ils ne verront pas le coquin. Ils verront autre chose.
Ils verront autre chose.
Ils s'imagineront autre chose.
Tout à fait.
Bon, Jean-François Rigaudin, merci encore une fois d'être venu.
Merci, Olivier Nottal.
D'être venu chez vous, en quelque sorte.